Bon début de journée sur France Inter. C'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. La Coupe d'Afrique des passions, Algérie-Sénégal pour la finale et pour l'histoire. Coup d'envoi 21h, la fièvre des supporters dans la bonne humeur. Reportage à Paris dans un instant. Les dispositifs de sécurité au maximum dans la capitale, mais aussi à Lyon ou à Marseille. Des débordements après les matchs de l'Algérie, présentés de manière très similaire entre le Rassemblement National et les Républicains. Amélie Perrier, on va en reparler avec votre invité à 8h20.
Un score au plus bas, une famille éclatée, un mouvement à la recherche de ses valeurs. La droite peine à se relever de son échec cuisant aux dernières européennes. Pour la première fois, François-Xavier Bellamy, tête de liste, explique à notre micro. Il est l'invité du grand entretien de la matinale. Posez-lui vos questions. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans l'actualité encore, le repreneur de Whirlpool a mis un 10 millions d'euros d'aide et en moins d'un an, plus un seul copec. Le gouvernement demande des comptes. Parcoursup à minuit moins une ce soir. Fin de la procédure. Plus de 30 000 lycéens toujours sans affectation. L'Iran et les États-Unis, un drone abattu au-dessus du détroit d'Ormuz. Et puis on danse à Avignon, pas sur le pont, mais dans la cour du Palais des Papes.
France Inter.
Les Fennec face aux Lions de la Teranga, l'affiche en jette. Les Algériens ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations une seule fois, c'était il y a 29 ans. Les Sénégalais, jamais. Donc, quoi qu'il arrive, ce soir, c'est de l'histoire. 21h, le coup d'envoi de la finale depuis le Caire en Égypte. En France, ce sont deux communautés qui vivent bien souvent côte à côte, comme ici dans le quartier de la Goutte d'Or, 18e arrondissement de Paris. L'excitation monte dans la bonne humeur. C'est un reportage de Simon Cardona.
Rue Stephenson, les fiertés algériennes et sénégalaises se croisent sur le trottoir. Si vous êtes pour les Fennec, rendez-vous au quartier général.
Chichouchou.
Et attention aux Sénégalais qui passent trop près du bar. Asdine aime bien chambrer.
Non, ça s'entend très très bien, que meilleur gagne et tout. Sénégalais,
c'est Omar, je m'appelle Omar Ba. 100% Sénégalais et fier d'être Sénégalais. Et ce qui est sûr, je vous prends à témoin que le Sénégal va gagner.
Écoute-moi, chef, je dis un truc. On a déjà battu le Sénégal.
1, 2, 3, vive l'Algérie!
Quelques mètres plus loin, les drapeaux sénégalais ont remplacé les mannequins dans les devantures. Dramé et couturier fait moins de bruit que ses voisins algériens.
Le Sénégal, ça s'appelle le pays de la teranga. C'est pour cela qu'on vient avec la discipline, on joue avec la discipline et on gagne avec la discipline. On va tranquillement.
Même si entre deux chemises, il n'est pas contre encourager les lions de la teranga. Les Sénégalais regarderont le match chez Barakatou, un magasin
100% sénégalais.
100% sénégalais et on va battre les Algériens comme pas possible.
Le patron va même fermer plus tôt.
L'écran il est là déjà et quand ça commence, il y a tout le monde qui est devant le magasin, on ne vend pas. On se concentre pour regarder le match.
Au Caire, le coup d'envoi est prévu à 21h, mais rue Stephenson, la fièvre va monter dès 17h.
La fièvre, pourvu qu'elle reste joyeuse. Les autorités veulent éviter à tout prix les débordements comme ceux du 14 juillet au soir de la qualification de l'Algérie. Les policiers seront donc en première ligne à Lyon, Marseille, gros dispositif de sécurité aussi évidemment à Paris. 2500 agents déployés un peu partout, vigilance particulière pour les Champs-Élysées. Emmanuel Grégoire est le premier adjoint à la mairie de Paris.
Nous sommes tout à fait en accord avec la décision du gouvernement qui est de ne pas avoir exploré la piste d'une fermeture des Champs-Élysées. On doit pouvoir continuer à vivre, on doit pouvoir continuer à faire la fête et nous sommes assez confiants sur le fait que le dispositif de sécurité qui va être mobilisé avec un nombre de forces de l'ordre important soit de nature à permettre de concilier une grande fête populaire et la garantie de sécurité pour des riverains et des commerçants qui ont été très éprouvés ces derniers mois. Mais voilà, on travaille techniquement avec la préfecture de police et a priori, toutes les conditions nous semblent réunies pour que ce soit une belle fête.
Le premier adjoint à la mairie de Paris avec Farid Anouar. À Montbéliard, un couvre-feu a été instauré pour les moins de 14 ans non accompagnés. Les images du dernier match de l'Algérie ont donc laissé des traces. Voitures brûlées, vitrines brisées, 282 interpellations. Un boulevard pour certains partis politiques. Un point commun aussi entre le Rassemblement National et les Républicains. À chaque fois, ils ciblent la communauté algérienne. Yael Gauz, les réactions à droite et à la droite de la droite sont très similaires.
Quand le député LR Éric Ciotti fustige un communautarisme exacerbé, les amis de Marine Le Pen dénoncent un patriotisme étranger. Réaction en stéréo, l'angle d'attaque est double. Emmanuel Macron ne maîtriserait ni l'ordre ni l'immigration. C'est sur ce thème que le patron des députés LR, Christian Jacob, interpelle le gouvernement. C'était mardi à l'Assemblée.
Combien de procédures de raccompagnement aux frontières ont été engagées après cette profanation indigne ?
Et de Marseille à Nice, le RN réclame l'interdiction des drapeaux algériens. Rien. À Béziers, le maire Robert Ménard l'a déjà décrété pour les cérémonies de mariage.
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ces manifestations avec drapeau algérien ?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont de vrais Français? Bien sûr que non. C'est des Français d'opportunité.
57 ans après la fin de la guerre, une partie de la classe politique continue de se crisper quand il est question d'Algérie, ce que regrette l'historien Benjamin Stora.
Il y a une forme de méconnaissance, surtout d'une partie de l'histoire de la diaspora algérienne en France, qui est très enracinée, forme de 2 millions de personnes qui sont d'origine algérienne. La question, bien, c'est d'essayer de s'adresser à l'ensemble, disons, de cette diaspora et non pas d'essayer d'en isoler une petite partie pour l'opposer au reste.
Au ministère de l'Intérieur, personne n'est dupe des municipales qui approchent de ces élus qui surfent sur les incidents. Un débordement, ajoute-t-on à Beauvau, qu'il soit provoqué par un Français qui soutient l'équipe d'Algérie ou par un Français qui soutient les Bleus, est tout aussi inexcusable.
Bon, et sinon, rappelons une dernière fois que la finale entre l'Algérie et le Sénégal, c'est bien ce soir, 21h, coup d'envoi au Caire en Égypte. Où est Steve? Bientôt un mois maintenant que les Nantais se posent la question et la maire de la ville, Johanna Roland, vient d'écrire au ministre de l'Intérieur. Il faut, dit-elle, que les enquêtes aboutissent extrêmement rapidement. Ce jeune animateur périscolaire de 24 ans n'a plus donné signe de vie depuis le soir de la fête de la musique. Steve est-il lui aussi tombé dans la Loire après l'intervention de la police? Toujours aucune réponse malgré les deux enquêtes ouvertes. Et la colère monte, le mot bavure tagué sur les murs de Nantes. Un rassemblement à nouveau prévu demain après-midi. La famille du jeune homme constitué partie civile. Il est urgent de faire toute la lumière sur cette affaire, conclut la maire dans son courrier.
10 millions d'euros d'aide pour le repreneur de Whirlpool à Amiens et une question aujourd'hui.
Qui taraude les salariés, où est passé tout cet argent? WN, c'est le nom du repreneur français placé en redressement judiciaire le mois dernier, soit moins d'un an après avoir touché des millions, dont une partie débloquée par l'État. La pilule est amère et le gouvernement n'a pas l'intention de se laisser faire. La secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher était sur place hier pour annoncer le lancement d'un audit.
Il y a une interrogation sur la façon dont on a utilisé l'argent public. J'entends cette interrogation légitime et je veux qu'on l'éclaircisse et qu'on donne la vérité aux salariés. C'est-à-dire que pour mettre en lumière l'utilisation de l'argent, nous avons des éléments de l'expert comptable, mais il faut aller un temps plus loin et obtenir pour rentrer dans un certain nombre de dépenses qui sont dites diverses, demander un audit spécifique et nous allons le faire.
Vous réservez le droit de lancer une action, des poursuites?
Alors moi, je suis quelqu'un de très simple. Hein. Soit on respecte la loi, il n'y a pas de problème, soit on ne respecte pas la loi. Et mon devoir, c'est de communiquer les informations au procureur et c'est au procureur de juger si elles appellent une enquête et des investigations plus profondes.
La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher répondait à Claudia Calmel de France Bleu Picardie. Par ailleurs, deux repreneurs sont déjà sur les rangs. Les offres seront présentées dans la journée aux ex-Whirlpool. Manifestation des salariés Tati ce matin devant le siège à la Plaine Saint-Denis en banlieue parisienne. Les enseignes Tati vont devenir Jiffy, sauf l'historique de Barbès. Ça a été confirmé cette semaine. Fermeture d'une dizaine de magasins au passage. Le plan de restructuration doit encore être négocié.
À 8h08, la suite de votre journal, Hélène Roussel à l'étranger. La tension monte inexorablement entre l'Iran et les États-Unis.
Détroit d'Ormuz, ce couloir pétrolier entre la péninsule arabique et la corne de l'Afrique, théâtre de toutes les tensions ces derniers temps, pas plus tard qu'hier. Washington annonce avoir abattu un drone iranien car il menaçait un navire américain. Et voilà Téhéran ce matin qui assure n'avoir perdu aucun de ses engins, qui même pointe du doigt une boulette. Les États-Unis auraient abattu l'un de leurs propres drones. Un poker menteur quasi grotesque entre les deux pays, mais de plus en plus dangereux. New York, Loïc Loury.
C'est Donald Trump lui-même qui a annoncé la nouvelle. Le drone en question s'était approché à moins d'un kilomètre d'un navire de guerre américain. Il menaçait, dit le président, la sécurité du navire et de son équipage. Le drone a donc été détruit et Donald Trump appelle ses partenaires à condamner l'Iran. Voilà qui constitue un nouvel épisode dans la guerre des nerfs que se livrent l'Iran et les États-Unis, notamment autour de ce détroit d'Ormuz. Il y avait eu en juin justement la destruction d'un drone, cette fois américain, des attaques de tankers, puis l'arraisonnement d'un pétrolier iranien à Gibraltar. Et hier, enfin, c'est l'Iran qui annonçait détenir un tanker étranger. De chaque côté, le ton se fait de plus en plus agressif. La sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire et le rétablissement des sanctions y sont pour quelque chose. Il y a deux jours, Donald Trump affirmait malgré tout ne pas pousser pour un changement de régime à Téhéran. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le chaud et le froid donc du côté de l'Iran aussi. aussi. Hier, le président Hassan Rouhani, au téléphone avec Emmanuel Macron, a une nouvelle fois demandé que l'Europe intensifie ses efforts pour sauver l'accord sur le nucléaire. Les comptes de l'américain Boeing ont du plomb dans l'aile depuis les deux accidents qui ont fait plus de 300 morts. Le 737 MAX, son avion vedette, est immobilisé. 4 mois que ça dure. Le résultat, chiffre d'affaires en chute libre. Une perte pour Boeing estimée à 5,5 milliards de dollars. Ça fait dans les 5 milliards d'euros.
Et retour en France, Hélène, c'est la fin de la procédure principale de Parcoursup ce soir.
Les candidats qui ont reçu une proposition d'admission doivent accepter et finaliser leur inscription avant minuit moins une. Mais Parcoursup n'est pas encore tout à fait au point. Il reste de nombreux candidats en attente, Sonia Princey.
Ce qui est sûr, c'est que les candidats ont été fixés sur leur sort plus rapidement puisque la procédure a été raccourcie. Elle se termine en juillet au lieu de septembre l'an dernier. Et le bilan montre une légère amélioration par rapport à 2018 si l'on regarde les chiffres à la même date, d'après Jérôme Teillard, responsable de Parcoursup, qui n'a pris en compte que les lycéens.
Cette année, c'est allé plus vite. Si je compare à date, on a 5 points de plus. Donc aujourd'hui, 88,6% des candidats lycéens ont eu une proposition. On était à 83 l'an dernier, donc c'est mieux, ça va plus vite. Donc ça a ajouté de la sérénité dans les lycées.
La sérénité, pas pour tous. 34 000 lycéens sont toujours sans affectation et 26 000 étudiants en réorientation ou en reprise d'études. Pour eux, il existe la phase complémentaire où il reste 92 000 places encore vacantes, d'après le ministère. Mais il s'agit de formations parfois très pointues ou qui n'intéressent pas les candidats. Des commissions d'accès à l'enseignement supérieur doivent en principe accompagner ces jeunes sans solution. Mais on le voit, chaque année, il reste à peu près le même nombre d'élèves qui ne peuvent pas accéder à une formation par manque de place dans les filières les plus demandés ou proches de leur domicile ou bien encore en raison de dossiers trop faibles pour suivre dans l'enseignement supérieur.
Sonia Princey, le bac et le permis de conduire à 18 ans, c'est souvent le grand combo. Eh bien, ça va changer pour tous les jeunes en conduite accompagnée qui vont pouvoir dès lundi prochain passer leur permis à 17 ans. Annonce de Christophe Castaner au Parisien ce matin. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils pourront conduire tout seuls. Il faudra toujours avoir 18 ans pour cela. Une question de sécurité, dit le ministre. Ce sera le plus gros appareil d'analyse du cerveau humain au monde. ISULT est un IRM de recherche installé sur le plateau de Saclay en région parisienne. Son aimant dans lequel circule un très fort courant a atteint hier une puissance inégalée à ce jour pour ce type de machine. Avec lui, les chercheurs espèrent mieux comprendre les maladies comme Alzheimer, mais plus largement savoir comment on pense ou ce qui se passe en cas d'état végétatif. Sophie Bécherel.
Par rapport aux IRM qu'on trouve dans les meilleurs hôpitaux, ISULT sera 10 fois plus puissant. C'est un mastodonte, 132 tonnes, 5 mètres de diamètre, un courant de 1500 ampères, le tout refroidi à moins de 171 degrés. Il n'a pas vocation à entrer à l'hôpital. Pour l'instant, la machine est sans carénage, un peu comme une voiture dont on n'aurait que le moteur, mais un moteur surpuissant, selon Lionel Quétier, responsable de l'aimant au CEA.
Avec 11,7 Tesla, ISULT devient l'aimant d'IRM le plus puissant dans le monde pour ce qu'on appelle un corps rentier, c'est-à-dire qu'il existe des IRM qui vont monter jusqu'à 17 Tesla, mais pour des études sur des rongeurs, donc avec des tailles beaucoup plus petites.
Cet IRM a été conçu pour la recherche, pour décrypter le fonctionnement intime du cerveau. Là où aujourd'hui, les machines les plus perfectionnées donnent accès à 500 000 ou 1 million de neurones à la fois, il sera possible d'en isoler quelques milliers seulement. Denis Le Bihan, directeur de recherche au CEA.
Et l'enjeu, c'est bien sûr de comprendre le fonctionnement du cerveau en général. Qu'est-ce qui fait qu'on est conscient ? Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau végétatif ? Est-ce qu'on peut réveiller ces patients une fois qu'on aura compris ce qui se passe en, par exemple, en stimulant des régions du cerveau qui vont permettre de passer de l'état végétatif à l'état de réveil ?
Cet IRM surpuissant sera aussi dédié aux maladies du cerveau, pour une détection précoce d'Alzheimer, par exemple, ou pour élucider les maladies psychiatriques dans lesquelles les connexions entre neurones sont défaillantes.
Sophie Bécherel, 70 départements ce matin concernés par des restrictions d'eau. La sécheresse a un seuil critique alors qu'on annonce une deuxième vague de canicule pour le début de la semaine prochaine. Allez, on vous emmène à Avignon. Extrait du festival pour tous ceux qui ne peuvent pas en profiter avec Outwitting the Devil dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Un spectacle de danse signé du chorégraphe britannique Akram Khan ou comment plonger dans les ténèbres, Stéphane Capron.
Akram Khan a beaucoup hésité avant d'accepter le défi de la cour d'honneur. Il a imaginé un Palais des Papes en ruine après l'apocalypse. Le plateau est jonché de pierres noires tombées des murs.
C'est comme si toutes les fenêtres du palais étaient tombées du mur. C'est ce que le décorateur a voulu signifier. Ce serait le résultat de l'état du monde en ruine dans le futur si un jour l'homme décide de ne plus coopérer avec la nature.
La pièce s'inspire de l'histoire de Gilgamesh et d'un fragment récemment découvert qui décrit son admiration devant l'abondance de la forêt.
C'est la première histoire écrite par un homme qui évoque déjà le changement climatique. Je pense que l'on regarde dans la mauvaise direction. On cherche les réponses dans le futur alors qu'il faudrait les chercher dans le passé.
Les six danseurs sont habités par la dramaturgie dans un spectacle beaucoup trop démonstratif dont la chorégraphie répétitive d'Akram Khan finit par desservir le propos.
Stéphane Capron au Festival d'Avignon. On célèbre aujourd'hui à Pau les 100 ans, jour pour jour, du maillot jaune et une partie du Tour de France 2019 va se jouer là cet après-midi contre la montre individuelle de 27 km. Le Français Alaphilippe toujours en jaune. Et puis dans le genre performance, le Français Axel Raymond se pose là, championnat du monde de natation en ce moment à Yeosu en Corée du Sud. De l'or pour Axel Raymond après 25 km dans une mer déchaînée sous une pluie battante. 5 heures d'effort pour terminer en sprint. Veille de week-end au cœur du mois de juillet, c'est classique, on attend du monde sur la route des vacances. Orange aujourd'hui, rouge demain dans le sens des départs. Enfin des bisons, pas très fut-fut ceux-là. Une vingtaine de bestiaux se sont échappés, on ne sait pas comment, de leur élevage à Megève en Haute-Savoie hier. Des agents de la préfecture ont bien tenté de les ramener dans leur enclos, mission impossible. La chasse aux bisons est donc ouverte depuis l'aube ce matin, car le bison mesure en moyenne 1m80, pèse parfois jusqu'à une tonne. On n'a pas envie d'imaginer la suite si jamais un randonneur venait à en croiser un. Il n'y a que dans Yakari que les bisons sont sympas.
N'est-ce pas, Mélie Perrier ? Merci beaucoup, Hélène Roussel.